Bonjour, alors voilà, nouvelle émission de Radiohead. Aujourd'hui, on va parler de la hiérarchie. Alors, il y a un vieil adage qui dit que la hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Pourtant, dans un système aussi hiérarchisé que l'éducation nationale, ça doit bien servir à quelque chose, si ce n'est à quelqu'un. On va voir donc comment fonctionne cette hiérarchie et ce que ça implique dans les relations, mais de façon plus générale, on va parler des rapports de pouvoir au sein de l'éducation nationale, là où ils se situent et surtout si on peut s'en affranchir. Et on va commencer par ce qui semble le plus évident, peut-être le plus visible, ce sont les supérieurs hiérarchiques. Alors tout d'abord, dans le secondaire.
Oui, alors dans le secondaire, pour l'instant, on a donc comme échelle de hiérarchie, on a tout d'abord le chef d'établissement, qui est donc le principal dans les collèges ou le proviseur dans les lycées. Donc ça, c'est notre supérieur administratif, pour l'instant. Ce qui était donc c'était le cas jusqu'à la rentrée 2012. C'est le cas jusqu'à la rentrée 2012. S'il n'y a pas de changement. Ensuite, celui qui est notre supérieur d'un point de vue pédagogique, qui vient nous inspecter de temps en temps, qui passe dans la classe une heure tous les 5, 8, 10 ans, pour regarder si on fait bien la classe comme il faut, c'est l'IPR, l'inspecteur pédagogique régional, donc de notre matière. Donc lui, il vient vérifier qu'on applique bien les programmes comme il faut. Ces deux supérieurs se partagent d'une part l'autorité administrative sur nous, l'autorité pédagogique sur nous, et ils nous notent, sachant que c'est l'inspecteur qui a le plus de pouvoir sur notre évaluation. Parce qu'on est noté, on a une note sur 60, c'est l'inspection pédagogique, et une note sur 40, ça c'est le chef d'établissement. Le chef d'établissement, il nous évalue, lui, en fonction de... notre assiduité, notre ponctualité, notre autorité.
Et votre rayonnement. Et
votre participation.
Ouais, voilà, la vie de l'établissement.
De l'établissement. Voilà.
Bon, et ce qui est en cours de changement, c'est qui était en cours de changement avant l'abrogation là, du décret, c'était qu'il n'y ait plus comme échelon à côté de nous que notre chef d'établissement, c'est-à-dire l'échelon de pouvoir le plus proche. Voilà. C'est une bonne chose si c'est supprimé, en effet. Ça nous fera un peu d'air parce que bonjour le clientélisme, le favoritisme, les abus de pouvoir, là où on est, quoi, tous les jours. Parce que quand même, ce qui est pratique avec l'inspection, c'est qu'on le voit une fois de temps en temps. C'est complètement absurde. On fait la mascarade pendant une heure et puis voilà.
Alors, au niveau du primaire, donc on va partir du ministère qui est quand même l'échelon supérieur. Jusqu'à présent, donc, il y avait l'inspecteur d'académie. Donc, par exemple, ici, bah, c'est sur la Haute-Garonne. L'IEN, donc inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, donc ça regroupe un certain nombre d'écoles, c'est lui qui vient nous inspecter, ou pas, et ça s'arrête là, c'est-à-dire que normalement il n'y a pas de supérieur hiérarchique dans les écoles, puisque le directeur ou la directrice n'est pas supérieur hiérarchique, ne peut pas donc nous donner des ordres. Maintenant, ça a évolué depuis quelques années, puisque en multipliant les tâches, les pressions qui sont faites sur les directeurs, notamment au niveau de la sécurité qui devient omniprésente, le temps qui est amoindri, le temps de se réunir, de discuter, donc de prendre des décisions collectives, il y a des écoles où le directeur se comporte de plus en plus comme un supérieur qui décide de tout. Et à côté de ça, en face de ça, bah, des enseignants qui laissent faire, parce que parfois c'est plus confortable d'obéir, de se laisser déresponsabiliser, et voilà. Quoi. Donc ça change quand même les relations au sein des établissements. Il n'y a pas véritablement de hiérarchie, mais il y a la hiérarchie dans la tête.
Bah, il faut dire en fait qu'ils ont eu tellement de choses qui leur est tombées sur la tête, ces directeurs, qu'effectivement, aujourd'hui, au lieu d'avoir du temps pour discuter avec le reste de l'équipe, dont encore une fois, ils sont membres et au même titre donc, que les enseignants, donc au lieu d'avoir du temps pour parler de pédagogie, eh bien, ils passent leur temps à remplir des dossiers, à faire remplir des dossiers, à faire remonter les résultats. Et donc ça, c'est aussi extrêmement nuisible à un réel travail d'équipe. Donc ce qu'il en reste, c'est effectivement une tendance à être tourné complètement vers le supérieur hiérarchique pour faire passer les choses, pour faire remonter les résultats.
Alors on peut peut-être voir, parce que là on a parlé de la situation actuelle, mais c'est quand même en train de changer. Il y a eu notamment de nouveaux échelons qui ont été introduits.
Oui, alors ça c'est dans le contexte global de l'éducation, effectivement. Bon, il y a un premier échelon qui nous pendait au nez un petit peu, on va dire. Hein. Tu parlais du secondaire, comme quoi le chef d'établissement allait être celui qui allait vous juger en totalité et que ce décret allait être abrogé. Nous, au niveau de l'élémentaire, au niveau du primaire, on a parlé aussi de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, sauf que rien n'a été entériné au niveau des textes précis, mais il a été question qu'on n'ait plus d'inspecteur de circonscription censé venir nous évaluer, mais que ça soit nos supérieurs aussi qui nous évaluent. Donc, il fallait constituer pour ça un supérieur, donc faire un super directeur. C'est ce qui était en gestation avec les projets éclairs, de faire plusieurs établissements sous la coupe d'un seul directeur. Et alors là, c'était tout cuit. Ensuite, ils pouvaient effectivement nous évaluer. Ça, bon, ils l'ont pas formalisé vraiment, et donc là, il est certainement pas, ça sera pas prévu de la même façon aujourd'hui, étant donné ce qui vient d'être abrogé pour le secondaire.
Mais enfin, quand même, ce rôle de super directeur, il est dans les placards. On y reviendra tout à l'heure, mais depuis les années 80 quand même, des années 80.
Depuis très longtemps, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, on nous le resserre régulièrement, on se bat contre régulièrement, mais
oui, c'est ça.
Faut être vigilant, quoi.
Tout à fait. En 89, le décret. En 87, il y a un décret sur les maîtres directeurs qui avait été mis en place, où on donnait justement un statut de supérieur hiérarchique au directeur. Ce qui avait fait grincer sérieusement les dents dans toutes les écoles, et donc ça a fini par être abrogé en 89. Oui, oui.
Parce que ce qui est aussi important de dire, me semble-t-il, c'est que pour le moment, dans les écoles primaires, l'instance entre guillemets qui décide, c'est un conseil des maîtres. C'est quand même super bien. C'est-à-dire
c'est institutionnel.
C'est institutionnel. C'est le conseil des maîtres qui prend les décisions au sein des écoles. C'est pas le directeur c'est pas une seule personne. C'est une forme de collégialité encore qui perdure. Mais effectivement, pour combien de temps?
Oui. Mais il y a d'autres structures, parce que c'est vrai qu'on parle des échelons qui peuvent être introduits, mais il y a d'autres structures qui ont été mises en place pour faire entrer d'autres acteurs à l'intérieur de l'école et du collège et lycée aussi. D'ailleurs, il y a quand même, en dehors du conseil des maîtres, il existe ce qu'on appelle un conseil d'école, hein, donc où les parents étaient censés justement pouvoir s'exprimer sur l'école. Alors pas surtout, hein. Pas sur la façon de transmettre les connaissances, c'est clair. Mais ils avaient un regard sur les projets menés à l'extérieur, les projets de sortie, sur les organisations un peu matérielles, les organisations de l'emploi du temps. Et au collège, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça aussi, à travers peut-être les conseils d'administration. Non, il y a...
Oui, alors il y a des changements dans les conseils d'administration, parce que les acteurs des entreprises locales qui vont rentrer petit à petit dans les conseils d'administration. Et moi, ce dont je pourrais peut-être davantage parler, c'est du rajout de nouveaux échelons de hiérarchie, hein, parce que dans cette espèce de logique managériale qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire que l'expérimentation éclair, par exemple, a introduit le préfet des études. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'écoles, de collèges, le préfet des études, c'est quelqu'un qui est recruté sur profil et qui va être un super qui va être moitié personnel administratif, moitié personnel d'éducation. Bon, ce qui est intéressant sur le nom, là, préfet des études, d'où vient cette appellation? Ça vient de chez les jésuites. C'était chez les jésuites que c'était en gros l'homme de confiance du chef, quoi, et qui surveillait tout. Surveiller les exercices, le travail des profs, le contenu des enseignements, la vie dans les couloirs et dans l'internat, etc. Donc c'est un espèce de sous-chef qui a été rajouté pour de vrai. Hein. Il y a des gens qui font ça, qui expliquent avec plaisir quelle est la place qu'ils ont pris, l'approche beaucoup plus globale qu'ils ont. Bon, au passage, il y a du fric en plus, il y a du pouvoir en plus, et on est bien vu par la direction. Et ce que ça fait, quand même des divisions à l'intérieur des personnels d'éducation, quoi. Ça, c'est clair, hein. Super CPE, au-dessus des profs, etc. Après, il y a un autre échelon assez subtil qui a davantage de pouvoir. Alors, dans le lycée où je suis, on fait tout pour détourner ça, mais il y a davantage de pouvoir maintenant aux profs coordonnateurs de discipline. C'est-à-dire que on a des équipes de maths, de lettres, il y a un prof coordonnateur. Alors chez nous, la tradition, c'est ça tourne tous les deux ans, etc. Bon, c'est pas partout comme ça, hein, parce que ce qui est quand même plus habituel, c'est il y en a un qui est là depuis adjutam aeternam, et jusqu'à ce qu'il parte. Et bref, ce professeur coordonnateur va participer à un conseil pédagogique qui, donc ça, le conseil pédagogique, nous, on a refusé de le mettre en place jusqu'à l'an dernier. Mais on était le seul bahut où il n'y avait pas ce conseil pédagogique qui a le pouvoir, par exemple, ça c'est complètement dingue, de gérer la dotation en heures supplémentaires. De gérer donc qui se retrouve avec la direction pour faire du boulot de répartition des heures, du boulot de qui devrait être du boulot du rectorat, quoi, en fait.
Alors tout ça, ouais, en fait,
là, du coup, ah non, ça craint, hein.
Ouais, ça craint, ouais.
Tout ça, en fait, bah, ça sert à faire redescendre les ordres et éviter que ça ne remonte, notamment les critiques. On fait peser les responsabilités sur celui qui est en dessous. Et ce qu'on voit, c'est que ça génère beaucoup de mensonges, puisque chacun a peur de se faire taper les doigts par celui qui est au-dessus. Maintenant, on peut éviter de se faire taper les doigts, c'est de ne pas les tendre, et notamment au niveau de l'inspection.
Oui. Alors, effectivement, un des actes anti-hiérarchiques qu'on peut avoir à nos cordes, justement, enfin à notre arc plutôt, c'est le refus d'inspection. Donc il faut savoir que dans l'éducation nationale, l'inspection n'est pas une obligation, c'est un droit qui est reconnu depuis 83, en fait, par une note de service d'Alain Savary. Ça a été, bien sûr, suite à un combat de syndicalistes. À l'époque, c'était le SGEN-CFDT, c'est plus du tout le même SGEN-CFDT d'aujourd'hui.
Ah bon?
Eh ouais. Ils ont tous été à Sud, pour la plupart. Et donc voilà. Donc ça a été une sacrée avancée, puisque on a pris conscience que on n'était pas obligé d'accepter tout de la hiérarchie. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, il y a eu beaucoup de luttes au sujet de la note, pas note, tout ça, parce que quand on refusait l'inspection, on n'avait plus de notes, etc. Et ça compte dans nos avancements de carrière à nous en tant que fonctionnaires, puisque plus on est noté, plus on gravit les échelons plus vite, donc on a un salaire plus élevé plus vite. Voilà, donc ça, il y a eu énormément de luttes aussi là-dessus pour une reconnaissance de la non prise en compte, enfin de ne pas avoir zéro à l'inspection. Donc voilà, ça a été vraiment des combats qui ont été gagnés. Et voilà, et donc c'est bien d'en user de ce droit.
De toute façon, au niveau de l'inspection, certes, les enseignants sont pas forcément du tout d'accord avec la façon dont ils sont inspectés, mais même les inspecteurs de circonscription eux-mêmes, petit à petit, se sont rendus compte de l'absurdité du système. Donc, il y a des inspecteurs qui écrivent à ce sujet-là et qui voient eux aussi qu'est-ce qui s'est mis à peser de plus en plus sur eux. Pour leur faire faire une inspection absurde. Alors déjà, l'inspection une fois tous les 10 ans, comme on en parlait, ou même plus, ça a un côté complètement absurde, infantilisant, etc.
Enfin, c'est bien, hein, que ce soit tous les 10 ans, même plus, hein. Moi, je suis contre qu'il y en ait.
En tant qu'élève, moi, je trouvais ça vachement drôle, hein, de voir les profs flipper comme ça, tout d'un coup, en nous faisant des tas de recommandations.
Ah ben, voilà.
Alors, l'inspection d'élève, non, mais c'est ça, hein, c'est la continuité, en fait.
Oui. Non, mais tout à fait, c'est bien pour ça que ce système est complètement absurde. Mais alors eux-mêmes, donc les inspecteurs, bon, parmi eux, il y a des gens qui se sont insurgés contre la tendance encore plus absurde de l'inspection ces dernières années, hein, où vraiment, justement, on va leur faire contrôler la remontée des résultats, l'adhésion au nouveau programme, au nouveau texte, la façon dont on met en place l'aide personnalisée. Donc eux aussi, finalement, ils sont obligés de regarder si tout colle par rapport aux nouvelles réformes et aux nouveaux dossiers qu'on remplit, et finalement d'avoir nettement moins de regard sur la pédagogie elle-même.
Enfin, après, je pense que c'était pas le sens de ton discours, mais on va pas non plus les plaindre, les inspecteurs. Ils ont choisi de l'être.
Pas le sens de mon discours.
Oui, non, c'est pour ça que je précise. Donc voilà, on va pas les plaindre non plus. Un inspecteur est un inspecteur. Il le demande. S'il est pas content, il démissionne. Il retourne prof.
Il passe un concours pour
mais
ça.
Mais oui,
même,
bien sûr, donc, quand même. C'est pas voilà. Donc je pense qu'ils savent aussi. Ils savent aussi à quoi s'attendre.
Oui, mais en parlant de concours, d'ailleurs, les inspecteurs qui sont donc des fonctionnaires, hein, les inspecteurs de circonscription. circonscription pour l'école élémentaire, donc comme on disait tout à l'heure, ils sont sous la dépendance de l'inspecteur d'académie, et l'inspecteur d'académie, il était lié au recteur. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'inspecteur d'académie, ça a été supprimé l'été dernier. Ce n'est plus un inspecteur d'académie, mais un directeur académique, je crois, si je ne me trompe pas d'intitulé. Et le recteur, du coup, a une fonction, reprend une autorité supérieure. C'est-à-dire, tant que les gens sont des fonctionnaires qui passent des concours, etc., ils passent. Effectivement, ils passent des concours ou ils ne les passent pas. Bon, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça garantit quand même une certaine, stabilité de cette fonction. Tant que c'est un fonctionnaire, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, les recteurs, si quelqu'un prend un pouvoir supérieur, et si c'est quelqu'un qui est élu qui prend un pouvoir supérieur, on voit bien que là, c'est l'arrivée du politique. Alors, je m'explique, les inspecteurs d'académie, donc, s'appellent directeurs d'académie, ils ont moins de pouvoir que n'avaient les inspecteurs d'académie, et leur pouvoir est repris en main par le recteur lui-même. Or, le recteur, c'est un politique. Donc, on voit bien là qu'il y a une mainmise du gouvernement central sur l'organisation générale de l'école.
D'accord. Donc là, on a vu en gros, ce que c'était la hiérarchie. Maintenant, toujours au sein de l'éducation nationale, même s'il n'y a pas de choses instituées, peut-être qu'on peut parler des relations de pouvoir qui existent à d'autres niveaux.
Bah oui, parce que alors l'éducation nationale, c'est une grosse machine, hein, les grosses machines d'État, ça fonctionne, moi je crois, très fortement avec une multiplication des échelons hiérarchiques. Et ce qui existe aussi dans une école, c'est pas que des enseignants et leurs supérieurs, c'est aussi tout un tas de personnel qui s'occupe de faire à manger, qui s'occupe de surveiller,
de nettoyer,
voilà. Donc ça, et qui s'occupe de donner un coup de main, par exemple, pour la gestion des enfants en maternelle.
Oui,
c'est le personnel ATSEM qui sont payés par la mairie. Et il y a plein de statuts différents, des statuts différents, des missions différentes. Les statuts, c'est-à-dire qu'on peut, il y a des, comme dans toute la fonction publique, il y a des grades, hein. Il y a cadre A, cadre B, cadre C. Oui. Donc ça fait déjà une hiérarchie formelle, c'est clair, hein, et une hiérarchie financière, parce qu'on gagne pas le même fric que l'heure. Passer au boulot, elle rapporte pas la même chose selon qu'on est enseignant ou selon qu'on est agent technique, qu'on répare les ampoules ou qu'on fait un cours, ça rapporte pas pareil. Donc c'est des rapports qui jouent et qui sont très forts dans un établissement scolaire et qui donnent aussi qui se traduisent, par exemple par le fait, ça se traduit par exemple sur l'habillement. Il y a les gens qui ont les costumes d'ouvriers, quoi, c'est-à-dire d'ouvriers techniques.
Le bleu.
Alors chez nous, ils sont bien en gris, voilà. Mais donc on les repère. Nous, les enseignants, on n'a pas notre costume, hein, mais je pense qu'on sait très bien qu'on est du côté des enseignants. Les personnes qui s'occupent de la cantine et du ménage, qui elles ont les blouses. Voilà, donc le personnel ouvrier de l'établissement, il est repérable déjà au code vestimentaire. Après, il y a aussi toute une organisation de l'espace. Moi, par exemple, quand je mange à la cantine, je trouve ça complètement fou. La façon dont s'organise la séparation des différentes catégories de personnel. Par exemple, il va y avoir la table des CPE, donc conseil d'éducation, la table des surveillants. C'est pas simple. La table des profs du général et la table des profs du professionnel. Et tout ça ne se mélange pas. Vient ensuite la table du personnel administratif, qui se sépare en deux, la table des chefs et la table des agents. Ah non, attention, hein,
c'est incroyable.
Ah ouais, c'est fou, hein. Il y a des photos à faire, c'est complètement dingue, quoi.
Ils mangent la même chose.
Je sais pas.
Maintenant, c'est vrai que ça se fait, on pourra le voir sur d'autres façons, mais je pense qu'il y a besoin à un moment de se retrouver entre pairs, comme tu dis, c'est-à-dire de pouvoir avoir, on n'a pas les mêmes discussions quand il y a tout le monde, quand il y a les chefs avec, etc., et qu'il y a besoin de pouvoir discuter entre soi. À des moments donnés, et comme ces moments ne sont pas justement institutionnalisés et qu'il faut bien les chercher à droite à gauche, ça peut se retrouver aussi au moment des repas.
Ouais, tout à fait, ouais. De ne pas être sous le regard des supérieurs.
À l'école, on a ce genre de choses aussi avec la séparation effectivement du personnel municipal hein, et des enseignants. Bon, par rapport à l'uniforme, quand même, ce qui est assez drôle de noter, je trouve, c'est qu'avant, tous les enseignants portaient une blouse.
Ouais.
Donc, c'est parti il y a un certain nombre d'années. Bon, de temps en temps, on nous a parlé, là, ces dernières années, d'ailleurs, de la réintroduction possible des blouses, au moins pour les enfants. On va savoir après, c'était peut-être le décret suivant, une blouse pour les enseignants aussi. Bon. Mais, dans les écoles, effectivement, d'ailleurs, moi, ce que j'ai pu voir dans certaines écoles, ces dernières années, avec le renforcement de renforcement potentiel du pouvoir du directeur, j'ai pu voir des séparations où dans les écoles, les enseignants, dès que le directeur entrait, se taisaient. Ah, c'est incroyable. Changement de conversation, enfin bon, parce qu'ils sentaient bien que là, il y avait une opposition nette entre celui qui est dans les petits papiers de l'inspecteur et eux. Bon, heureusement, c'est assez rare quand même, ce genre de situation extrême. Mais sinon, il y a effectivement une espèce de hiérarchie qui se met en place qui n'existe pas hein, dans les faits, puisque nous, enseignants, on n'est pas du tout les supérieurs en maternelle du personnel municipal, des ATSEM, hein, mais il y a une hiérarchie de fait qui est mise en place. Et ça, c'est très compliqué, c'est-à-dire comment faire quand on est enseignant pour assumer le rôle qu'on a, c'est-à-dire d'organiser la pédagogie, intégrer à l'intérieur le personnel municipal, donc intégrer l'ATSEM et lui expliquer quel est le rôle qu'on attend d'elle, donc dans la classe, et tout en n'étant pas dans une position de commandement. Et réciproquement, pour l'ATSEM, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire accepter de faire quelque chose qui répond aux besoins de l'enseignant, tout en ne se mettant pas dans une position subalterne. Et ça, c'est vraiment un problème qui est assez difficilement soluble, parce que en fait, bon, on va pouvoir en parler, mais il y a un problème très concret d'habitude et de temps qu'on peut consacrer à discuter entre différents corps de métier.
Alors il y a de façon peut-être informelle, mais il y a de toute façon la façon dont on parle aux gens, le respect hein, des gens avec qui on travaille. Ce qui va rester, c'est la différence de statut et donc de salaire, mais visiblement, il y a quand même eu des expériences qui ont été faites. Qu'est-ce qu'elles ont donné à ce niveau-là ?
C'est pas facile, hein, l'égalité. Au lycée expérimental de Saint-Nazaire, alors, bon, c'est une expérience d'autogestion pédagogique qui met sur un pied d'égalité les membres d'une communauté éducative, donc élèves, mais aussi tout le personnel d'un établissement scolaire, donc c'est-à-dire agents administratifs, enseignants, CPE, voilà. Au départ de ce lycée, les gens qui ont été recrutés, ils avaient divers statuts. Et tout ce monde-là a au sein du lycée la même appellation, c'est membres de l'équipe éducative, les ME, comme on les appelle. Et donc on fait le même boulot. J'ai passé quelques temps là-bas et donc ce qu'on était amené à faire, c'était autant s'occuper de faire à manger que de répondre à un moment donné, s'occuper du secrétariat, que de faire les comptes, que de gérer le budget, mais les élèves aussi, hein, que de nettoyer les chiottes, que de choisir ce qu'on allait apprendre. Et donc tout le monde y participait, et notamment là, puisqu'on est sur les questions de hiérarchie entre personnel, en théorie, il n'y avait plus de hiérarchie dans les personnels. C'est-à-dire qu'on était amené à passer le même temps, à faire le même boulot, c'est-à-dire à y être à peu près en permanence, week-end compris, bon bref. En l'occurrence, ça n'a pas complètement défait les inégalités, les hiérarchies. D'abord parce qu'on y arrive avec son statut et son salaire, et que le salaire n'est pas modifié, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été... C'est au départ, en fait, ils ont dit, quand ce lycée a été créé, ce qui a été dit, c'est on va laisser les salaires comme ils sont. Et on en a rediscuté plusieurs fois. Et en fait, ce qui reste quand même, c'est que il y a une résistance très très forte à reconnaître qu'on peut être qu'on peut faire le même boulot et qu'on peut être payé pareil, parce que certains ont fait des études, donc du coup ils sont jugés plus légitimes
pour enseigner, pour faire de l'enseignement. Ceux qui sont agents techniques ne se sentent pas légitimes, moins légitimes pour être dans des... Alors que c'est de l'enseignement qui c'est pas l'enseignement magistral où on donne un cours, hein, c'est, ça n'a rien à voir. Et puis qu'il faut pas toucher au salaire, quoi. Que le salaire, c'est l'ancienneté, c'est les études, c'est le niveau de vie, c'est... Du coup, c'était très difficile. On est resté sur des statuts divers, avec des gens qui se repliaient assez facilement sur le domaine d'où ils venaient, c'est-à-dire que les personnes qui étaient agents administratifs à l'origine, eh ben, ils se sentaient quand même plus légitimes à faire, continuer à faire davantage d'administratif que d'enseignement. Voilà.
Et vous en avez discuté quand même de ces... de ce partage du salaire à un moment donné, est-ce que ça s'est posé, est-ce que vous avez réussi à en discuter sereinement sans vous taper sur la gueule?
Ah non, ça a été claquage de porte, ça a été très violent en fait. C'est très violent parce que il y a eu un moment donné où par exemple on avait la possibilité de toucher des primes de zones sensibles. Donc on s'est dit, ah, eh ben voilà, on va en profiter. Parce que voilà, ce qui était compliqué, c'était qui est-ce qui allait verser de l'argent à qui. Tant que c'est l'institution qui s'en occupe de distribuer les salaires, eh ben ça va. Mais là, ce qui était compliqué, c'est qui est-ce qui allait reverser de l'argent à qui sur la question de l'égalité des salaires. On s'est donc dit, tiens, la prime, ça va être bien, ça, on va faire du rattrapage. Eh ben non, ça a été impossible. On n'a pas profité de la prime pour dans un lycée qui prétend qui travaille sur l'égalité, le partage de pouvoir tout le temps, ça a été impossible de dire on fait en sorte de rattraper les salaires, parce que quelque part c'est juste l'inégalité de salaire, elle est légitime. Voilà pour une expérience. Je voulais dire que je pense qu'il y a des moments où les hiérarchies sont bousculées de fait, c'est quand il y a des luttes. Et quand du coup là par exemple les personnels de différents statuts se retrouvent ensemble, ben d'ailleurs on se parle plus du tout pareil. Les enjeux deviennent communs et puis on parle de choses de tous les jours, quoi, de comment on va se démerder avec la caisse de grève pour se la partager, pour survivre. Et ben on se retrouve à égalité. À
décider c'est simplement parce qu'à un moment, ben en tacon, on a le temps de faire autre chose. Aussi, voilà. Et ben nous on va faire une petite pause musicale.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, mère d'Avauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge, merde à vos bons.
Merde à vos bons.
Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle, j'ai manqué la belle, merde à vos Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle, merde à Vauban. Bagnard, le temps qui tant s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules tant te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche, merde à vos bancs. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je rêve. la route blanche, les pieds devant mer. Je chanterai d'en dessous mes planches, merde, à vos bancs.
Alors, on a vu donc qu'il y avait des gens qui refusaient l'inspection, et dans la mesure où, même si c'est quand même relativement autorisé, on va dire, il y a des sanctions un peu déguisées comme des mutations, comme des blâmes, des choses comme ça. Et donc, il y a des collectifs qui se sont montés, des collectifs anti-hiérarchie, qui luttent contre les supérieurs, qui luttent contre l'inspection. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'ils parlent rarement, voire jamais, des rapports qui existent entre les enseignants et les élèves. Et donc, ben, est-ce qu'on peut parler de rapports de pouvoir au sein de la classe, notamment avec les élèves, pour commencer?
C'est pas vrai, Talane?
Ah. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, en fait, dans ce genre de collectif, dans les collectifs anti-hiérarchie qui peuvent organiser, par exemple, justement, comme tu disais, par rapport à des sanctions, etc., à des stages syndicaux qui sont organisés, bon, notamment dessus des CNT, faut pas, voilà, régulièrement, quand même, ils présentent des pédagogies nouvelles. Moi, je me souviens d'un stage où, justement, on avait découvert le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Il y avait un prof qui était venu nous en parler. Il y a aussi une discussion sur la pédagogie Freinet. Donc, en fait, quand même, au sein de ces collectifs, il y a tout de même une réflexion sur le rapport. Ok, moi, je n'accepte pas la hiérarchie, ma hiérarchie dans mon institution, mais qu'est-ce que je fais concrètement dans ma classe? Est-ce que j'instaure pas un pouvoir hiérarchique? Est-ce que c'est pas hyper coercitif? Est-ce que c'est pas... le jamais, j'étais pas d'accord avec toi. Voilà.
D'accord. Non, c'était par rapport au texte qu'on pouvait trouver, notamment sur Internet, sur le refus d'inspection.
D'accord.
Voilà.
On peut dire quand même, on peut rappeler toujours que quand on parle de pédagogie nouvelle, c'est des pédagogies qui ont quasiment un siècle.
Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. Ou innovante, ça me fait toujours...
Ouais. Ouais, en tout cas, il y a une continuité entre, d'ailleurs, qui se manifeste le jour de l'inspection, entre la hiérarchie qui pèse sur l'enseignant et celle qui fait peser sur les élèves. Par exemple, le symbole de la note est quand même quelque chose de très fort sur le côté échelon qui se répète, et sachant que celui qui est en bas, qui va être le plus sommé d'obéir, et ben, c'est l'élève. Alors, est-ce que c'est exactement pareil? Moi, je suis pas tout à fait sûre parce que, par exemple, il me semble que on vient pas pour les mêmes choses quand même. Dans une école, les élèves y passent, c'est pas leur boulot, ils gagnent pas leur vie. Nous, on y gagne notre vie là-dedans, donc il y a une différence d'objectif quand même sur le fait d'être là. Après, le pouvoir qui est exercé sur les enfants, il peut être jusqu'à la tyrannie puisqu'on est seul dans la classe.
Alors, je pense que bon, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Pourtant, l'un se nourrit de l'autre. C'est toute la construction de l'obéissance qui se fait là-dedans, et on le voit au niveau de l'inspection. Certains enseignants qui vont se replacer dans une, enfin, qui se trouver à nouveau dans une place d'élève avec la peur de l'échec face à une autorité. Je pense que ça sert aussi à nourrir le pouvoir qu'on va faire peser sur l'élève, et donc à apprendre aux élèves à obéir.
On a dit toutes ces dernières années, d'ailleurs, que l'autorité était mise à mal, que tout ça, c'était à cause de 68, qu'il fallait revenir sur une autorité un peu plus formelle, qu'il fallait former les enseignants à l'autorité, et que de toute façon, ils n'y arrivaient pas, c'était impossible, parce que ces élèves, vraiment, ils sont vraiment trop insupportables. Et donc, on a même conclu, alors, toi qui travailles au secondaire, que peut-être on pouvait mettre carrément des gendarmes dans les établissements. Dans les établissements éclairs, tu n'as pas eu connaissance de ça?
Ah ben oui. Oui, il a été question de mettre... Alors, il y a eu quelques établissements qui ont eu des gendarmes dans une brigade, enfin pas des gendarmes, en fait des gens chargés de la sécurité de l'établissement et qui pouvaient faire appel à une cellule de gendarmerie très rapidement. Donc soit dans l'établissement, soit aux abords des établissements. Mais bon, pas dans les classes. Mais l'idée, c'était quand même que en cas de violence dans les classes, il puisse y avoir intervention de gendarmes. Ça, c'était une des grandes préoccupations. Complètement démago et délirante d'interpréter le en termes de sécurité et de recours à la force armée, le fait que, oui, l'école rencontre des problèmes. Oui, il y a un problème de la place des enseignants. Oui, il y a un problème de qu'est-ce que ça veut dire que d'aller à l'école aujourd'hui, c'est quoi les projections que les jeunes ont de ce qu'ils font à l'école. Oui, c'est clair, mais c'est certainement pas avec des gendarmes que les jeunes vont trouver plus légitime ce qui s'y passe, quoi.
Mais il y a même eu, j'ai eu des choses aussi là-dessus, l'idée de faire des travaux d'intérêt généraux pour les élèves des établissements secondaires. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été mis en place, dans combien d'établissements, si c'est juste un projet. Mais bon, on a réfléchi aussi à des choses comme ça. Donc là, il y a un croisement vraiment entre ce qu'est la société et l'autoritarisme qui arrive à tous les niveaux de la société, puisqu'il se passe dans les établissements scolaires.
Ah, un gendarme qui appelle. Mais parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'en 2010, il y a eu les états généraux de la sécurité.
Voilà.
Et de la sécurité, et en particulier à l'école. Et de là, sont sorties tout un tas d'idées sur la gestion de la discipline à l'école et sur une gestion sécuritaire de la discipline à l'école. En l'occurrence, le préfet des études, il vient aussi de là. Donc, toute cette pensée autour de la hiérarchie, le rétablissement de l'autorité, le rétablissement de l'ordre, de la discipline, c'est lié à un imaginaire sécuritaire. Voilà. Après, je pense que là, on répond pas complètement à notre questionnement sur maître-élève. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres rapports? Est-ce que on peut appeler ça rapport de hiérarchie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent entre la hiérarchie, l'autorité, le pouvoir.
Voilà, faut déjà définir un peu ce qu'on appelle autorité. C'est vrai qu'au sein de la classe qui légitime, entre guillemets, l'autorité du maître sur l'élève, c'est le savoir en tant que pouvoir, en tant que transmission. Ce qu'on peut en tout cas changer, c'est le partage du pouvoir au sein de la classe, c'est-à-dire comment les décisions peuvent être prises, et ça remet pas forcément en cause l'autorité de l'enseignant qui reste garant de ce qui se fait dans la classe et qui n'a pas de toute façon le même statut. Maintenant, ça implique une relation différente avec l'élève qui va être une critique réciproque possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à accepter par certains enseignants.
Oui, parce qu'en fait, là, quand on commence à toucher à l'organisation de la classe en donnant davantage de pouvoir aux élèves, on touche à des choses très matérielles, par exemple, la répartition des livres, des cahiers, ça peut être fait par un enfant, il y a des choses très très concrètes de cet ordre-là, s'occuper de gérer les livres de la bibliothèque, un enfant peut avoir cette responsabilité-là. On touche à des choses très concrètes comme ça, mais on touche au fondement de la classe, au fondement de l'autorité, et on touche même aux apprentissages dans ces cas-là, parce que ça veut dire que chaque enfant, quand on aborde ce genre de pédagogie et d'organisation, chaque enfant peut avoir possibilité d'avoir des désirs sur les choses qu'il apprend, de critiquer ce qu'on lui apprend, la façon dont on lui enseigne, donc éventuellement de critiquer aussi ce qui est mis en place par l'enseignant. Donc c'est vraiment un système qui peut faire une véritable révolution. Ce que j'ai envie de dire par rapport à l'autorité quand même, c'est que même si le savoir donne de fait une certaine autorité dans un sens un peu large à l'enseignant, le piège justement de ce métier, c'est de faire que l'enfant, lorsqu'il obéit, lorsqu'il fait un travail, s'il le fait sous la contrainte, si l'enseignant utilise, mettons, son autorité autoritaire pour faire quelque chose à l'enseignant, l'élève peut se mettre au travail, mais non pas en se disant « bon, je me soumets à la tâche parce que pour faire des progrès dans tel domaine, il faut que je réfléchisse, que je me pose, que je fasse un effort, quoi. Mais je me mets au travail parce que j'obéis à celui qui me donne un ordre. » Et ça, du coup, ça crée des choses au niveau des apprentissages qui sont extrêmement dommageables. Et par rapport à la réussite scolaire, quand un enfant, il travaille uniquement sous la menace ou sous la peur de la punition, c'est pas du tout la même chose que quand il comprend que pour avancer, eh bien, il y a des contraintes, mais qui sont liées à la tâche. Et ça, dans une pédagogie autre, en acceptant un partage du pouvoir différent, l'enfant peut le comprendre.
Bah, c'est aussi le fait de se rendre compte de ce dont on est capable soi-même, de ce qu'on apprend et de ce qu'on sait faire, puisque de toute façon, les élèves, ils arrivent pas vides à l'école, ils ont déjà eux-mêmes un savoir et qu'on prend rarement en compte, quoi. alors qu'il existe.
Mais ça fait le lien avec une de nos émissions précédentes. Comment est-ce qu'on accueille aussi la connaissance de l'élève dans nos classes ? Tout ça, c'est très lié finalement. On fait des émissions cloisonnées, mais on pourrait toutes les mêler entre elles. Et je pense que, effectivement, le rapport maître-élève dans la classe, ce partage du pouvoir, c'est pas une utopie. On est à peu près toutes d'accord. C'est possible. Et tu parlais de la répartition des livres, mais il y a aussi, par exemple, l'organisation de la classe le matin. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?
Voilà.
Et ça, c'est pas évident de lâcher.
Tout à fait. Oui.
Et puis, il y a autre chose sur lequel moi, j'aimerais trouver des solutions. C'est la hiérarchie qu'on fabrique entre les élèves, qui justifie les différences de parcours, etc.
Les notes, tu veux dire ?
Les notes, les réussites, les bons, les mauvais, etc., qui font en plus que les bons sont de plus en plus bons, parce que ils sont de plus en plus légitimes à prendre la parole, donc ils s'exercent davantage en fait même, et que les mauvais sont de plus en plus mauvais. De fait, c'est-à-dire qu'on fabrique l'échec au fur et à mesure. Donc moi aussi, une des choses que j'ai... Mais j'y arrive pas, parce que je suis coincée dans un système dont je n'arrive pas à me sortir. Et c'est effectivement les notes qui font ça. C'est de transformer la compétition en coopération. Parce que il me semble que créer ce climat de coopération, c'est le meilleur stimulant pour apprendre, quoi.
Alors, il y a un des acteurs de l'éducation dont on n'a pas parlé, et leur tour, il va peut-être falloir en dire un mot, ce sont les parents. Les parents, les rapports de pouvoir dans l'école avec les parents, quels sont-ils ? Est-ce que les parents travaillent sur un pied d'égalité avec les enseignants ?
Ben non.
C'est le thème de la prochaine émission, non ?
Non, mais peut-être on peut en dire quelques mots. On peut dire, je ne sais pas, qu'il y a dans l'éducation nationale un regard souvent très négatif sur les parents, voire des rapports humiliants avec les parents. Hein. C'est-à-dire que il y a des parents qui sont tenus pour responsables des échecs ou accusés d'être des missionnaires. Enfin bon, le système le fabrique. C'est-à-dire que là maintenant, avec les sanctions pour absentéisme des enfants, c'est-à-dire les stages de parentalité, etc. C'est pas juste dans la tête des enseignants, c'est que c'est conforté par un système qui va punir les parents d'avoir des enfants qui veulent pas venir à l'école. Donc, et après, dans les rencontres entre les enseignants et les parents, ça se joue très fort, ça. Il y a des parents qui ont vécu des véritables moments d'humiliation et de leçons de bonne parentalité de la part d'enseignants qui se sont permis de leur expliquer comment c'était bien d'être parent. Qu'est-ce que c'était un bon parent?
De la même façon, là encore, pour des parents, c'est difficile de revenir à l'école, parce que pour eux-mêmes, déjà en tant qu'élèves, c'était pas simple, donc on les replace dans cette situation-là. Maintenant, il me semble que c'est avec eux qu'on a des intérêts en commun, c'est-à-dire la réussite de leur enfant, qui se sentent bien à l'école, et donc on doit bien travailler avec eux et pas contre eux.
Ben ouais, puis en plus, eux, ils connaissent quand même fort bien leur enfant, en général bien mieux que nous. et donc, c'est de la coéducation qu'il faut qu'on arrive à faire.
Bien, peut-être que pour conclure, ce qu'on peut dire, on peut effectivement changer certaines choses au sein de l'école, en tout cas en tant que personne, mais c'est pas nous qui allons tout faire, hein. Il y a des choses qui dépassent le cadre de l'école.
Ben oui,
voilà, le contexte général,
la société
est vraiment très contraignant. La société aussi est contraignante.
Alors peut-être la solution, on va la trouver dans la musique qui va suivre et qui va conclure.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floquée de constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer pour être heureux vraiment, pour plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains élèves du même, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit, gouvernement de Ferry est un système pourri, cette Ce Cloc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut que le gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois donc plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floc et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus gouvernement.